Le monde souffre et attend. Il a soif de bonté. Dans les combats de la vie, où il se fait tant de blessures, Dieu veut secourir. Dieu veut apaiser. Dieu veut guérir. Le monde souffre et attend. Il a soif de miséricorde. Parmi ces hommes où brûle parfois la haine, le mépris, l'indifférence, Dieu veut pardonner. Dieu veut réconcilier. Dieu veut sauver. Le monde souffre et attend. Il a soif d'espérance. Et sur cette terre, parfois rongée de détresse ou par le désespoir, Dieu veut apporter la paix. Dieu veut vaincre la mort. Dieu veut ouvrir son royaume. Mais il le fera avec nous, avec tous les hommes qui se mettent à son écoute. Aujourd'hui, nous sommes là pour qu'il illumine les yeux de notre cœur et pour regarder vers demain plein de confiance. Dieu est là parmi nous. Laissons-lui la place pour guider nos esprits. Laissons-le ouvrir nos cœurs pour le reconnaître. Amen. Nous nous présentons ensemble devant le Seigneur avec le premier chant du livret inséré au début du psautier. Nous louons le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que cette journée contient de promesses, pour tout ce qu'elle contient aussi de rencontres. Merci pour les paroles échangées, en particulier celles qui n'ont jamais pu être dites. Merci pour les moments de sincérité, en particulier pour ces moments où nous nous considérons d'égal à égal. Merci Seigneur pour celui qui se remettra debout et qui retrouvera un peu de dignité à ses propres yeux par tes paroles, ces paroles que tu lui auras adressées dans l'intimité du cœur. Merci pour celui qui se laissera habiter par ton souffle et dont la vie sera changé. Merci aussi, Seigneur, pour celui qui sera témoin de plus grand que lui-même, parce qu'il t'aura laissé la place qui te revient. Merci pour celui qui rayonnera de cette vie profonde, non pour que tu l'aimes, mais parce que tu l'as aimé le premier. Amen. Nous chantons dans le psautier, le psaume 8, une autre façon d'exprimer notre louange au Seigneur, les quatre premières strophes et la sixième.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Pour nous mettre à l'écoute des attentes de Dieu à notre égard, ces attentes telles que les a conçues, en tout cas comprises, l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, ne laissez pas agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des braises de lumière sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Jésus nous dit « C'est pour un jugement que je suis venu, afin que ceux qui voient ne voient pas, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Alors prions le Seigneur. Oui Seigneur, nous sommes aveugles devant toi, et nous le confessons. Quand je me crois quelqu'un, quand mes vertus me montent à la tête, c'est alors que je ne vois plus. Car je ne vois plus que ma propre loi et ma propre justice. Seigneur, aie pitié. Quand la colère, la rancune, où mon jugement sur les autres me submerge, c'est alors que je ne vois plus, car je ne vois plus que moi. Seigneur, pardonne-moi. quand je perds l'espérance, quand je perds la certitude de ta victoire, quand je perds la confiance dans l'esprit d'amour que pourtant tu m'envoies jour après jour, c'est alors que je ne vois plus, car je ne vois plus que mes forces. Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Il faut peu de temps pour que, à peine la conscience de notre faute mise en route, la conscience du pardon et d'un plein pardon nous submerge. Cette grâce, nous l'entendons par le psaume 103. Le Seigneur est miséricordieux, bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité, et il n'est pas toujours en procès. Il ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. Et comme le levant est éloigné du couchant, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre avec ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Il sait bien de quelles pattes nous sommes faits. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Par ces paroles, frères et sœurs, Dieu nous met au cœur l'assurance du pardon. C'est pourquoi nous nous levons pour chanter notre reconnaissance. Restons debout pour confesser notre confiance. Je crois en Dieu qui est créateur de toutes les choses visibles et invisibles et qui aime comme un père. Dieu est esprit. Dieu est amour. Je crois en Jésus-Christ, fils de Dieu et fils de l'homme. Il est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie, de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout homme. Il appelle à la foi et il fonde notre espérance. Je crois au Saint-Esprit, qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs, et nous conduisant vers son royaume. Je crois à la mort, à l'amour plus fort que la mort, et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pour écouter le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, du verset 4 au verset 16. Pourtant, moi j'ai des raisons d'avoir confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, eh bien moi je le peux davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, et pour la loi pharisien, pour le zèle, persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenue irréprochable. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu, et je considère tout cela comme ordure, afin de gagner le Christ, afin d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma justification à partir de la loi, mais à partir de la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et qui s'appuie sur la foi. Oui, il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, et de devenir semblable à lui dans la mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Non que j'aie déjà obtenu tout cela, ou que je sois déjà devenu parfait, non, mais je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été moi-même saisie par Jésus-Christ. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, comportons-nous donc ainsi? Et si, en quelques points, vous vous comportez autrement, là-dessus aussi, Dieu vous éclairera. En attendant, au point où nous en sommes arrivés, marchons dans la même direction. Amen. Nous chantons les trois strophes du cantique 296. Thank you. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions. Seigneur, quand nous risquons une parole, que nous puisions à ta source. Quand nous risquons une parole, qu'elle nous relie à l'unité de ceux qui te prient. Quand nous risquons une parole, qu'elle s'élève en louange, comme un souffle d'espérance. Quand nous risquons une parole, qu'elle soit parole de vie. Seigneur, nous ne pouvons risquer de parole si la tienne ne nous rencontre pas d'abord. Voici le texte que nous méditerons. Il est extrait du livre d'Osée, au chapitre 2, du verset 10 au verset 25. Elle n'a pas compris que c'est moi qui lui donnais blé, vin nouveau, huile fraîche. Je lui prodiguais de l'argent, et l'or, ils l'ont employé pour Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé en son temps, mon vin nouveau en sa saison. J'arracherai ma laine et mon lin qui devaient cacher sa nudité. Et maintenant je vais dévoiler sa honte aux yeux de ses amants. Et personne ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses néoménies, ses sabbats, et toutes ses assemblées solennelles. Je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle disait « Voici le salaire que m'ont donné mes amants. » Je les changerai en fourrés, et les bêtes sauvages en feront leur nourriture. Et je lui ferai rendre compte des jours des Baals auxquels elle brûlait des offrandes. Elle se parait de ses anneaux et de ses bijoux, et elle courait après ses amants. Et moi, elle m'oubliait. Oracle du Seigneur. Eh bien, c'est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au désert. Je parlerai à son cœur. Et de là-bas, je lui rendrai ses vignobles. Je ferai de la vallée de Hacor une porte d'espérance. Et là, elle répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle monta d'Égypte. Et il adviendra en ce jour, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom des Baals et on ne mentionnera même plus leur nom. Je conclurai avec eux en ce jour-là une alliance. Une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai. Il n'y en aura plus dans le pays. Et je permettrai aux habitants de dormir en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et le droit, par l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité. Et tu connaîtras le Seigneur. Et il adviendra en ce jour-là que je répondrai, oracle du Seigneur. Je répondrai à l'attente des cieux et eux répondront à l'attente de la terre. Et la terre, elle, répondra par le vin, par le blé, par l'huile fraîche. Et eux répondront à l'attente d'Israël. Je l'ensemencerai pour moi dans le pays et j'aimerai l'eau rouama, qui veut dire non aimé, et je dirai à l'eau ami, qui veut dire tu n'es pas mon peuple, je lui dirai c'est toi mon peuple. Et alors lui il dira mon Dieu. Alors vous avez dû noter que cet oracle a des accents passionnés, assez inhabituels. Son propos sont intimistes. Et il faut voir que cette partie, en tout cas cet oracle à lui seul, est à l'image du livre d'Osée. Osée, c'est un prophète qui dénonce les errements du peuple d'Israël et il le fait parce qu'il est consumé par l'amour ardent de Dieu pour son peuple. C'est un prophète particulier. Sur ordre de Dieu, il vit une vie scandaleuse car il a épousé une prostituée sacrée, Gomère. Et il vit le drame de son infidélité alors qu'il lui a conservé tout son attachement. Son expérience malheureuse, déchirante, se confond avec son message, car ce qu'il vit, c'est l'expression même de la souffrance de Dieu à qui le peuple d'Israël fait toutes sortes d'infidélités. Alors, quelles sont ces infidélités? Eh bien, ce peuple d'abord qui s'est installé a cédé aux séductions ambiantes. Le culte de Baal, que l'on connaissait il y avait déjà plus de 100 ans avec Élie et Jézabel, ce culte de Baal connaît un regain d'intérêt. Ajouté à celui de l'alliance avec Dieu, il présente aux Israélites de l'époque, d'Osée, une garantie supplémentaire. On lui sacrifie des offrandes pour obtenir la pluie fécondante, des récoltes suffisantes et des troupeaux prospères. Mais par un glissement et par une contamination subtile, en associant ces deux dieux, eh bien le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob finit par prendre les traits de ce dieu de la fécondité. Et les Israélites, de lui vouer un culte formel, où on dissimule à peine le calcul qu'il y a derrière, en croyant s'acquitter de ses obligations avec lui, le peuple hébreu entre dans une relation qui a quelque chose à voir avec la prostitution. Une relation ritualisée, mais minimale, où le Dieu des pères est devenu un moyen pour obtenir des biens et des plaisirs, un moyen, une sorte de levier pour combler des besoins indispensables. Les conséquences sont très étendues. On finit par diviniser la puissance dans tous les domaines. Et puis, les infidélités les plus flagrantes, eh bien, elles se voient dans la direction du pays, ou plutôt dans l'absence de direction, parce que les élites sont totalement incertaines. Elles balancent entre les Assyriens et les Égyptiens, leurs puissants voisins, pour conclure des alliances hasardeuses, au plus offrant. Et puis, le pays est ravagé par des complots qui se montent et se démontent autour de la succession royale. Partout règne la corruption, et vous savez que la corruption, c'est toujours aux dépens des plus petits. Alors ce peuple fragile court à la catastrophe, alors qu'à ses portes, son voisin assyrien attend le moment favorable pour l'engloutir. Même au moment où il croit revenir à Dieu, eh bien, Dieu s'est détourné de lui. C'est comme un vide qu'il y a à la place de Dieu, un point zéro de la présence de Dieu qui est attesté par ces noms que j'ai dit à la fin. Eh bien, c'est le prénom que Dieu a demandé de donner aux deux enfants qui sont nés du mariage entre Osée et Gomère. La première, c'est une fille. Dieu lui demande de l'appeler non-aimé, et le deuxième, c'est un garçon, de l'appeler pas mon peuple. Dieu les a abandonnés. Alors ce passage que nous avons lu est le résumé du livre d'Osée, car il montre, vous voyez dans ces quelques versets, à la fois un procès en divorce d'un peuple qui se prostitue à d'autres dieux. Ensuite, la conséquence inévitable, c'est-à-dire la rupture de l'alliance conjugale, mais aussi, en dernier, la figure souffrante d'un Dieu époux de son peuple. En quelques phrases, on voit l'amour blessé prendre des accents douloureux. Et puis, on voit Dieu craquer, en quelque sorte. Et au moment où il craque, on voit se nouer un lien très étroit entre catastrophe et salut, au point de ne plus les distinguer. Au moment même où on s'attendait à entendre un châtiment sans appel, quand on entend « oracle du Seigneur », c'est que ça va barder. Et bien là, on a Dieu lui-même qui opère un retournement que normalement on aurait dû attendre de la part du peuple. Eh bien, c'est le mari trompé, le Dieu négligé, qui ne peut pas s'empêcher de manifester sa tendresse pour son peuple. Eh bien, c'est moi qui vais la séduire. On est surpris. Oui, je vais la séduire car il n'y a pas d'autre moyen de s'y prendre avec ce peuple qui se laisse si facilement séduire. Alors, en hébreu, le terme « séduction » est très fort. Il traduit une certaine violence, puisqu'il s'agit d'un rapt, voire d'un viol d'une jeune fille dont on se rend maître en usant de la tromperie s'il le faut. Alors cette initiative musclée évoque plutôt la reprise d'une relation. Vous voyez, plus tard on dit « elle répondra comme au temps de sa jeunesse ». Alors je parlerai à son cœur. Il faut se garder d'idéaliser la nouvelle relation en interprétant cette expression « parler à son cœur » dans un sens contemporain qui serait plutôt sentimental. Selon la conception vétérotestamentaire, le cœur, c'est le siège de la pensée. C'est là où se construit la volonté. C'est l'organe où naissent les intentions et les projets. Alors le rapt, cette violence, ce rapt qui vise à détourner le peuple de la catastrophe à laquelle il se donne pourtant passionnément, eh bien ce rapt, il a pour but de convaincre la femme Israël à se laisser décider en faveur de son Dieu. Oui, je la conduirai au désert. Le désert, c'est ce lieu que l'on met à l'écart. Je la mettrai à l'écart, car là où elle profite de l'abondance, elle vit sous la coupe de maître qui la prive d'elle-même. En effet, dans l'oreille de chacun, le désert renvoie à l'épisode de l'Exode qui suit la sortie d'Égypte. Et tout comme le Pharaon avait réduit le peuple en esclavage, eh bien les Baals de l'époque d'Osée, les Baals de la fécondité, poussent le peuple d'Israël à la prostitution. Le nom même de Gomère invite à cette interprétation. Il est construit sur une racine qui veut dire « combler », achever, pour ne pas dire gaver. C'est tout un programme qui indique qu'Israël pratique des rites cananéens par peur de manquer. Le remède que Dieu trouve à ces situations de dépendance qui cherchent à conjurer le manque, eh bien, c'est la rupture radicale, la séparation dans un lieu de privation. Le désert, c'est le lieu du vide. Ce lieu hautement symbolique où on ne va pas de son plein gré, ce lieu où on ne s'attarde pas pour éviter les périls, hein, comme les animaux sauvages, dangereux, les voleurs. C'est aussi, à l'époque, le lieu de la relégation, le lieu refuge des réprouvés, des marginaux, des indésirables, des déplacés en tout genre. Et c'est par conséquent l'endroit où on ne peut pas prendre racine, le lieu par excellence du déracinement. Étymologiquement, le désert, en hébreu, c'est le lieu de la parole, le milieu d'où jaillit une parole qu'on peut vraiment écouter. Alors, le silence ajouté à la soif en fait un endroit privilégié pour parler au cœur, pour parler de cœur à cœur, là où la profondeur de son être est engagée, là où on est réceptif à ce qui va droit vers l'essentiel. On pourrait aussi traduire le lieu dans la parole, hein, littéralement, c'est-à-dire ce lieu dans la parole où elle est absolument essentielle. Alors c'est ce qui nous permet de mieux accepter la connotation violente de la séduction. Est-ce que Dieu, pour nous parler à l'intime, de cœur à cœur, aurait besoin de nous faire sortir de nos chemins balisés, de nous sortir des idées largement fréquentées, de nous extraire de nos habitudes rassurantes qui comblent immédiatement nos besoins et qui bouchent le trou de nos insécurités? Eh bien, sa pédagogie passe par le dépouillement, par l'épreuve de la solitude, où rien ni personne ne peut nous accompagner. Oui, il nous faut passer par là où on doit tout reprendre, tout reconstruire à nouveau frais, là où on n'a même plus rien à perdre parce qu'on a tout perdu. Appui, repère, sens. Est-ce que pour entendre une parole qui fasse sens, qui donne une direction à sa vie, on n'a pas besoin de cette épreuve aride où on ne risque plus de suivre servilement quelqu'un parce qu'on est privé de tous ses automatismes? N'est-ce pas à l'image du peuple idolâtre et volage qui court après ses amants par des rituels qu'on voudrait magiques? N'est-ce pas là les besoins de se rassurer? Eh bien, sans doute faut-il à un moment que nous passions par ce vide où on a le sentiment de mordre la poussière, où il n'y a pas une seule parole de consolation humaine qui soit audible, supportable, où nos expériences passées, nos assurances même spirituelles ne sont plus d'aucun recours. Eh bien, c'est là, dans la privation, dans le dénouement, que nous pouvons enfin répondre. répondre à celui qui nous poursuit de sa tendresse, à celui qui nous veut vivants, à celui qui nous veut libres et même partenaires de sa volonté. Oui, Dieu, chacun, je crois que c'est le sort de chacun. Dieu nous mène au désert à un moment ou à un autre dans notre existence pour que dans ce jeûne de sens, de paroles assourdissantes, de biens matériels parfois, qui nous gavent mais qui ne nous nourrissent pas, nous retrouvions en nous la capacité à répondre librement à ces avances. C'est dans ces structures provisoires, dans cet exode intime, que nous sommes disponibles pour faire ou refaire alliance avec lui, pour reprendre notre vie en vrai sujet désirant, en partenaire amoureux de la volonté de Dieu. Là, dans une compréhension renouvelée, inédite, intime de la tendresse de Dieu, tendresse unique pour l'unique que nous sommes, eh bien, nous pourrons l'appeler mon mari et non plus mon Baal. Parce qu'en hébreu, mon mari, ça veut dire mon homme, c'est-à-dire le masculin de la femme. Au sens du premier homme de Genèse au chapitre 2. Et ça suppose donc que mon homme a un correspondant féminin qui est à égalité. Donc ça suppose une relation de réciprocité, de complémentarité, ce qui n'est sûrement pas le terme de Baal, car Baal signifie maître, mais en induisant l'idée de propriétaire. Alors c'est en passant par la privation de Dieu, par ce degré zéro de la relation avec lui, parfois faite de révolte terrible, c'est par ce passage étroit et angoissant où il nous manque en fait, où il semble s'écarter de nous, nous dédaigner, nous oublier même. Eh bien c'est en passant par cette porte étroite que nous retrouvons avec lui une relation d'amour, une relation d'interdépendance consentie cette fois-ci, et non plus une sorte de commerce automatique hérité de l'usage familial ou une relation étouffée par la peur du rien et la peur de l'abandon. Ce degré zéro qu'est la vallée d'accord, hein, vous avez entendu cette mention, c'est précisément là où s'ouvre une porte de l'espérance, dit le texte. Eh bien, cette vallée d'accord, c'est le lieu dans le livre de Josué au chapitre 7 où une faute cachée a dû être expiée car elle entraînait l'échec du peuple hébreu dans la conquête de la terre promise. Alors vous voyez bien que pour nous chrétiens, nous avons une lecture quand même christocentrée. Comment ne pas penser à la croix du Christ lorsqu'il est abandonné à sa vulnérabilité humaine ? Comment ne pas penser à ce passage terrible qui nous ouvre avec Dieu à une relation d'un autre type, une relation où l'on peut risquer l'avenir sans certitude, c'est vrai, sans rite conjurateur, mais avec une espérance affermie. Je te fiancerai, il le dit trois fois, je te fiancerai à moi. Et le terme de fiancé, c'est celui qu'on utilise pour une vierge, c'est-à-dire le retour à Dieu est un retour à zéro. Le passé est totalement aboli. Il ne reste rien de l'infidélité passée. Il y a un gigantesque potentiel d'avenir. Alors voilà ce que nous retiendrons aujourd'hui. C'est au risque d'une rupture que le Seigneur nous expose. Et ce risque, il le prend, car il sait notre incapacité à revenir à lui par nos propres forces. Il connaît notre faiblesse et la faiblesse de notre volonté à changer d'orientation. Mais il se laisse emporter par son amour. Il sait se faire impérieux. Il sait se saisir de nous. Il sait nous saisir en semblant nous condamner ou en semblant nous abandonner. Et surtout, c'est lui qui sait accompagner notre désir, notre désir de retour à lui, quand c'est l'impasse ou le désir qui nous y a contraints. Et c'est parce qu'il revient sur la violence de sa déception, c'est parce qu'il aime la non-aimée, c'est parce qu'il fait du Fils un temps renié son peuple, qu'il donne à chacun de nous la dignité de l'appeler à nouveau « mon Dieu ». Amen.
Thank you.
levons pour chanter le cantique 289 que Aurélia nous a préparé en fait. Je vous invite à vous asseoir. Pour écouter les annonces qui seront brèves, bien sûr, nous sommes en période ralentie de vacances. Alors, ce mercredi, de 12h30 à 13h30, il y a donc un parcours biblique qui file le thème de la vocation. Et donc après la vocation d'Abraham, qui nous a occupé quand même deux séances, eh bien nous allons nous attaquer à la vocation de Jérémie, qui justement est un successeur de Osée. Donc c'est la vocation prophétique. Donc de 12h30 à 13h30 aux 4 rues de l'Oratoire. Vous êtes vraiment invités. Et puis samedi 23, il y a à 18h, toujours aux 4 rues de l'Oratoire, la prière silencieuse. Alors c'est cette veille discrète, pourtant très importante, d'un moment de méditation et un moment où on se met devant Dieu dans la confiance, portés les uns par les autres. Voilà, vous êtes invités bien sûr. Et donc dimanche prochain, le culte à la même heure. C'est le moment de l'offrande. Nous prions. Seigneur, nous voulons croire que ton amour pour nous se manifeste concrètement et qu'il est apte à transformer les vies. C'est pourquoi nous voulons te confier les personnes de la paroisse qui se portent mal. Toi, tu les connais. Nous voulons te confier celles et ceux que la maladie paralyse, que la solitude enferme. Tu connais déjà leurs soucis, mais nous voulons appeler ta bienveillance sur eux pour que le désespoir ne l'emporte jamais. Fais leur signe à ta manière, afin que leur vie trouve toujours du relief et du goût. Et si ce signe passe par nous, inspire-nous. Nous voulons aussi te confier nos amis, nos familles, ceux qui nous sont chers. Nous faisons nôtre leurs joies et leurs peines. Éclaire nos relations avec eux et allège les difficultés que personne ne peut porter à leur place. Dans la ville où nous habitons, toi, tu sais les drames cachés. Tu sais les existences fragilisées, les vies abîmées, arrachées. Tu sais chaque instant de ces personnes qui souffrent en silence. Tu sais la haine de soi qui rend agressif et méchant. Tu te tiens sous le poids de ces détresses cumulées. C'est pourquoi nous te confions celles et ceux qui ont le cœur assombri, qui sont marqués par la violence, par l'abandon ou la dépression. Donne-nous ta sensibilité pour savoir les rencontrer. Et dans ce contexte particulier de cette semaine, aide-nous à garder confiance dans l'humanité. Viens agir dans les cœurs, viens élargir nos cœurs. Que ton amour soutienne, reconstruise, enthousiasme ces femmes et ces hommes, si lointains et si proches à la fois. Oui, Seigneur, nous faisons le pari que la vie par toi, c'est un miracle. Nous avons déposé notre confiance en toi. C'est pourquoi nous t'adressons sans réserve les paroles que ton Fils Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et il nous accorde sa paix. Qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Chacun bon dimanche et bonne semaine.